Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur Carac, présenté par Marie-Ève Musy.
Genève, ville de culture.
Merci d'être avec nous. On reprend notre discussion du jour sur le matrimoine. Le musée international de la Réforme a été rénové. Avant sa réouverture au printemps 2023, Jean-Quentin Effliger, vous avez profité de sa fermeture pour repenser l'exposition permanente. Vous avez revu son contenu et sa présentation, notamment pour laisser plus de place aux femmes. Comment est-ce que vous avez procédé?
Oui, c'est tout à fait juste. Donc, les travaux du musée ont été l'occasion de réfléchir à une nouvelle présentation, de présenter les choses de façon plus juste. Pour ce faire, on s'est attaché à prendre différents conseils de théologiennes, de pasteurs, d'historiennes qui ont travaillé sur ce sujet, notamment Lauriane Savoie ou Sandrine Landau, qui est pasteur à la cathédrale. Plusieurs séances de travail pour essayer de comprendre, voir ce qui est intéressant, important de mettre en évidence différentes théologiennes du XVIe siècle ou des figures aussi plus récentes.
Et quels étaient les défis principaux qui sont ressortis de ces séances de travail?
Alors, les problèmes principaux, c'est puisque les femmes ont été invisibilisées en parlant de l'histoire de la réforme depuis à peu près 500 ans, il y a assez peu de portraits, il y a assez peu d'œuvres en fait, et un musée reste quand même un lieu où il faut pouvoir présenter des objets pour pouvoir attirer le visiteur et reposer un discours sur un objet. Donc ça, c'est un premier problème. On parlera peut-être de Marie Dentière ou d'autres femmes théologiennes. On a rarement des portraits. On a des portraits de reines célèbres, on a des portraits de personnages politiques, mais pas tellement sur des femmes du peuple, en fait, des femmes, des théologiennes plus simples, qui n'avaient pas de carrière politique.
Puisque vous avez cité son nom, Marie Dentière a été ajoutée au mur des réformateurs à Genève en 2002. Quel a été le déclencheur? Quels changements sociétaux ont permis à cette personnalité d'être soudainement reconnue?
Alors, c'est vrai, en novembre 2002, sous l'impulsion d'Isabelle Gressler, qui deviendra à partir de 2005 aussi la première directrice du musée de la Réforme, il y a cette volonté de passer le nom de Marie Dentière sur le mur des réformateurs. D'ailleurs, de placer aussi d'autres réformateurs célèbres, comme Luther ou Zwingli, qui étaient aussi absents de ce mur. L'impact, en fait, de ce nom et l'influence est aussi liée au fait que, depuis plusieurs décennies, les femmes ont le droit d'étudier à l'université, ont le droit d'avoir un titre de théologienne. Et donc, il y a aussi un intérêt plus marqué, peut-être, des femmes théologiennes sur la question du genre et de femmes qui les ont précédées, de pasteurs qui les ont précédées. Donc ça, c'est, à mon avis, déjà une influence. En l'occurrence, Marie Dentière, un des points importants, c'est qu'elle a laissé, même s'il n'y a pas de portrait officiel d'elle, elle a laissé deux œuvres majeures qui nous parlent de l'époque de la Réforme, des commencements de la Réforme à Genève, dans les années 1530. Et c'est des sources de première main. On a quelque chose ici de très important, au-delà du simple fait qu'on rend justice à une femme qui voulait prêcher. On a aussi une source très importante qui a été remise en lumière finalement assez tard.
Il s'agit de livres
dont la bibliothèque de Genève est dépositaire. Ces livres, alors pour des questions de conservation, on ne peut pas les présenter, mais on en a fait des facsimilés. On présente le contenu de ces livres, notamment l'épître très utile faite par une femme très chrétienne de Tournai, où Marie Dentière, de façon anonyme, parce qu'on est en 1539, explique preuve à l'appui les argumentaires bibliques que les femmes ont autant le droit que les hommes de prêcher la réforme.
Vous souhaitez nous parler d'une œuvre sur laquelle on voit une femme à l'air triste ou en souffrance, c'est difficile à dire. Elle est habillée de façon opulente, elle tient un ouvrage ouvert dans ses mains. De quoi s'agit-il?
Alors, dans une des salles du musée, la salle de l'expansion, sur la façon dont la réforme se développe à travers le monde, on a choisi, et grâce au prêt du musée d'art et d'histoire, un prêt à long terme, un très beau tableau d'une femme. Et je dirais qu'elle est plutôt pensive, elle regarde le visiteur. Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas forcément l'image, c'est un tableau d'assez grande taille, qui fait presque 1 mètre de haut par 90 cm de large. Effectivement, il y a une femme avec de la fourrure, elle est assise, elle regarde le spectateur, et elle tient dans ses mains, en fait, une Bible de très grand format. On sait que c'est une Bible parce que ce tableau a été réalisé en 1660 aux Pays-Bas par un élève de Rembrandt, Karel van der Plume. Et aux Pays-Bas, à cette époque-là, le seul livre qu'une femme ou qu'un homme, d'ailleurs une famille, pouvait avoir à la maison, c'était une Bible en néerlandais. Et cette femme lit cette Bible posée sur ses genoux de façon nonchalante, de façon tout à fait banale. On sait que c'est une femme mariée, elle porte une alliance à son annulaire gauche. Et puis on voit qu'elle a aussi quelques problèmes de lecture, puisqu'elle tient aussi quelques lunettes entre les mains. Et donc cette femme, qui est une femme anonyme, nous montre de façon très simple les révolutions que les femmes, dont les femmes profitent au moment de la réforme. Ces révolutions, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas non plus une panacée. Les femmes ont le droit de lire, mais la finalité, c'est qu'elles puissent lire la Bible pour se comporter en bonne mère et en bonnes épouses. Donc cette vieille femme qui lit la Bible chez elle, elle lit aussi la Bible dans un intérieur tout à fait banal, elle ne le lit pas à l'église. Donc on a quelques éléments ici d'une révolution. Une femme puisse lire la Bible chez elle de façon tout à fait simple, c'est déjà une révolution. Et il y a encore du chemin.
Durant les dernières journées du patrimoine, vous avez proposé une visite particulière intitulée « Le cœur à ses réseaux, la réforme et ses influenceuses ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre ?
Bien sûr. Alors, basé sur les œuvres qu'on a mis en évidence dans le parcours permanent de l'exposition, on a travaillé sur les liens entre les différentes personnalités féminines du XVIe siècle. On parlait de Marie d'Antière. Marie d'Antière, par exemple, se place dans un réseau de pensée, que ce soit avec d'autres femmes ou avec des hommes. En ce qui concerne les femmes, Marie d'Antière, par exemple, place son écrit, l'épître très utile, sous la protection de Marguerite de Valois, la sœur de François Ier, qui elle-même, bien que non protestante, restée catholique, sœur du roi, a toujours essayé de protéger et influencer positivement la réforme. Mais Marie d'Antière, par ses réseaux, elle est aussi proche, quoique très opposée, à Jeanne de Jussy. Jeanne de Jussy, c'est une autre figure de femme importante du XVIe siècle qui nous laisse une petite chronique des moments de la réforme à Genève. On est au début des années 30. Jeanne de Jussy, c'est une abbesse du couvent des Clarisses au bourg de Four, l'actuel palais de justice. Et en fait, Marie d'Antière, mais aussi certaines de ses copines de l'époque qui elles-mêmes voulaient prêcher la réforme, comme Claudine Levet ou Henriette Baudichon, qui d'ailleurs sont sur le mur des réformateurs, donc petite parenthèse, on a toujours dit Marie d'Antière, c'est la seule femme qui a son nom sur le mur des réformateurs. Non, en fait, il y a deux petits noms, Henriette Baudichon et Claudine Levet, en tout petit, très petit, il faut avoir des bons yeux, sur la partie gauche du mur des réformateurs.
Qui ont été ajoutés à Camerain ?
Non, qui ont été imposés sur le mur, à la construction du mur en 1917. Donc il y a quand même ces deux noms-là, parce que c'est deux femmes importantes qui connaissent Marie d'Antière, et les trois ensemble vont aller au couvent des Clarisses, rencontrer Jeanne de Jussy pour essayer de convaincre leurs collègues nonnes de se convertir elles-mêmes à la réforme. Parce que Marie d'Antière et ses copines, elles-mêmes, étaient avant ça des nonnes, des abbesses. Marie d'Antière venait d'un couvent à Tournai, avant de se convertir. Eh bien, Jeanne de Jussy et ses collègues Clarisses n'ont pas voulu se réformer, n'ont pas voulu adopter la réforme, et ont été chassées de Genève en août 1535, malgré l'argumentaire de Marie d'Antière et de ses deux collègues.
Merci beaucoup pour ces explications et ce récit. Effectivement, le titre fait plus sens comme ça. C'est le moment de faire une pause musicale dans la discussion. On poursuivra et on approfondira juste après. Une histoire triste pour changer. Décidément, les peines de cœur inspirent beaucoup les artistes. Parfois, les deux partenaires au sein d'un couple ne sont pas raccord. Et l'un des deux quitte l'aventure sans prévenir. Ça donne Austin de Dasha.